Et c'est parti pour une nouvelle journée au Novotel Avignon Centre avec la web radio du Off, Osmose Radio. Retrouvez d'ailleurs tous les podcasts sur www.osmose-radio.fr et les vidéos sur Facebook et sur Instagram. Face à moi, j'ai Alexandre de Limoges. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah, très bien, merci de me recevoir.
Oui, vous n'avez pas trop la grosse tête ?
La grosse tête, non, non.
Parce que vous jouez des personnages impressionnants là.
On vous retrouve. Oui, c'est ça, bah, j'espère en toute humilité, bon...
Pas évident, faut pas faire comme certains qui ont joué Napoléon et qui ont fini par s'y croire.
Aïe, 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 non, non, ça devrait pas.
Là, ça devrait aller. Alors, vous êtes à la tâche d'encre à 12h15 avec Akhenaton. C'est pour ça que je dis la grosse tête, parce que c'est un personnage extraordinaire.
Oui, oui, alors il avait pas une grosse tête, lui, il avait une tête allongée, oui. En arrière. En tout cas, il se faisait représenter comme ça, on sait pas trop. Dans Akhenaton, il avait une maladie, plusieurs maladies physiques, dont la maladie de Marfan qui le déformait physiquement, bah, ce qui fait que peut-être il a voulu se faire représenter comme ça, et tous ses sujets pendant les 14 ans de règne ont été représentés comme ça aussi.
Bon. C'est vrai. On dit qu'il a révolutionné. On dit qu'il vient d'un autre monde et tout à cause de ce.
Ah oui, il y a des complotistes. Voilà. Partout, il y a des complotistes.
Il n'empêche que c'était un pharaon extraordinaire qui a bouleversé l'Égypte à son époque.
Oui, voilà, c'est la 18e famille des pharaons, donc 18e dynastie. C'est les grands bâtisseurs, ceux qui ont fait la grandeur de cette civilisation. Les Amenophis, Hatshepsut, Toutmosis. Voilà, c'est le mari de Néfertiti, c'est le père de Toutankhamon. Donc Akhenaton, voilà, c'est la fin de cette... je dis la fin parce que c'est une famille un petit peu dégénérée. Hein, donc au moment d'Akhenaton, ils sont malades, ils sont... voilà.
Oui, mais on dit que même que Toutankhamon, son fils...
ce serait peut-être...
Il n'a pas vécu très longtemps parce qu'il était de gros problèmes, quoi.
Voilà, Toutankhamon, c'est pas clair. Hein. Il a peut-être été assassiné, il est peut-être tombé d'un char, on ne sait pas trop.
D'accord. Remarquez, avec la distance, c'était quoi, il y a 4000 ans ? Non, 3000 et quelques...
Il y a 3150 ans.
Voilà, donc on a un petit peu du mal avec les livres d'histoire.
On ne sait pas trop.
Toujours est-il qu'Akhenaton, lui, vous avez pris une tranche de sa vie...
Oui.
La dernière heure, quoi.
C'est la dernière heure de son règne, en tout cas. Il semblerait qu'il est mort, qu'il soit mort quelques mois plus tard, mais oui, oui, c'est la dernière heure de son règne. Il va être démis de ses fonctions, on va dire, de sa fonction même autant spirituelle que divine, par ses deux ministres principaux, qui vont d'ailleurs monter sur le trône à sa place.
Il n'y a pas le fameux Rémem, là où
il y a Aï, le grand-père de Toutankhamon. Puis Horemheb, voilà. D'accord. Qui n'auront pas de descendance, et puis donc c'est la fin de la 18e dynastie, et arrive le général Ramsès juste derrière, et c'est la 19e dynastie qui va commencer.
Qui se prépare. Voilà. Donc on est là, c'est une charnière dans l'histoire de l'Égypte.
Oui, oui, c'est la première guerre de religion, on peut dire.
Ah oui, c'est vrai.
Vraiment, il a inventé le monothéisme, donc il a inventé Dieu qu'on connaît aujourd'hui, Dieu de lumière, Dieu d'amour. Donc c'était une révolution à l'époque, hein. Terminer les dieux à tête d'animaux.
Anubis, etc.
Voilà, fini les prêtres d'Amon. Oui, une guerre de religion qui lui a coûté certainement la vie de ses enfants, la vie de sa femme Néfertiti, voilà.
C'est-à-dire qu'il s'attaquait à gros, puisqu'il attaquait, c'est l'équivalent de l'Église catholique aujourd'hui, enfin, s'attaquait à...
Guerre de religion, parce que guerre politique, certainement.
Ouais. Oui, puis il voulait changer complètement les bases. On dit également qu'il a mis fin à l'esclavagisme en Égypte.
Alors, il n'y avait pas d'esclaves.
C'est un mythe.
C'est un mythe, y compris pour la construction des pyramides, tout ça, c'est faux. C'était volontaire. Mmh. Pendant la crue du Nil, les paysans, c'est-à-dire l'ensemble du pays ne travaillait pas et montait pour au service, on va dire, de leur pharaon, qui était le représentant de Dieu sur terre. Hein. Donc c'était une dévotion volontaire. Voilà, il n'y avait pas d'esclaves. Il y avait des prisonniers de guerre, forcément, donc qui devenaient peut-être esclaves, mais c'est pas des esclaves à proprement parler.
Alors pour en revenir au spectacle, qu'est-ce qu'il fait ? Il est tout seul ? Parce que vous êtes seul en scène. Là.
Alors je suis tout seul, je suis... il est en train de... Il est dans sa chambre, il vient de se lever. Néfertiti a disparu depuis quelques mois, donc... il essaie de la reconquérir, donc il échafaude un plan pour qu'elle revienne aujourd'hui même, ce qu'elle ne fera donc jamais, mais il sent aussi que le vent tourne puisqu'il a ce conseil des ministres qui approche là, qui va se passer dans quelques minutes, et il fait un point avec le public, donc seul dans sa chambre, un point social, un point politique, un point religieux, artistique, on va dire, sur... C'est le point sur toute sa vie, en fait. C'est le point sur sa carrière de pharaon, on va dire.
Il fait le bilan, comme dirait.
C'est le bilan, il fait le bilan. Ouais. Il est en plein doute. Il est en plein doute parce qu'il sent que le vent tourne et que peut-être ce dieu est en train peut-être de l'abandonner. Il a un vrai doute à ce moment-là.
Oui, parce qu'après, quand même, on va essayer d'effacer son nom sur tous les...
Oui, sa mémoire
les tablettes et tout ça,
enfin,
sur les
effacé.
Temples, même à Thon, tout doit disparaître. Hein. Donc,
voilà.
Il est à l'aube de la... C'est marrant parce qu'ils ont voulu tout faire disparaître, puis c'est un de ceux qui reste...
Mais
il reste quand même connu, quoi.
C'est un vrai révolutionnaire immense. C'est pas un petit bonhomme de son temps qui a voulu changer les choses. Il a inventé des choses extrêmement modernes. Et puis, si vous regardez juste son art est extraordinaire.
C'est vrai qu'il a transformé aussi l'art égyptien avec des représentations plus réalistes, c'est ça ?
Oui, réalistes, humaines. On parle d'artiste à ce moment-là et plus d'artisan. On est vraiment dans l'idée que le cœur ou que l'âme ou que Dieu parle à ses artistes.
D'accord.
On parle d'artistes.
Donc c'est à 12h15 ?
À 12h15, tous les jours, sauf le mardi, à la tâche d'encre.
Bon, écoutez, cher Pharaon, on va passer à un autre monument.
Voilà.
Parce que vous avez deux monuments, là. À 12h15, c'est Akhenaton, à la tâche d'encre. Mais à 16h, c'est Gustave Eiffel.
Ah ouais. Voilà. C'est moins mystique, hein, là, déjà.
Ouais, mais c'est aussi une sorte de pharaon de la technique et de l'ingénierie.
C'est un grand architecte, hein. C'est un monument de... Et aussi un monument du management. C'est moins connu, ça, mais si vous allez dans les grandes librairies de la rue de la République, vous allez trouver un livre qui s'appelle « Comment gérer son entreprise comme Gustave Eiffel ».
Ah oui, carrément.
Carrément. Donc, c'est encore aujourd'hui enseigné. Gustave Eiffel a inventé le management.
D'accord. Ben justement, dans votre pièce « Gustave Eiffel, enfer et contre tous », il a un problème de management.
Oui, alors là, on est en décembre 1888. Donc, on est à 3 mois de l'inauguration de la Tour Eiffel. Cette Tour Eiffel qui va servir de porte d'entrée pour l'exposition universelle. Donc évidemment, on ne peut pas la livrer en retard. On travaille dessus depuis 2 ans, il ne reste plus que 3 mois, on n'en est qu'à la moitié, donc on est déjà très en retard. Ce sont les ouvriers les mieux payés de France, hein, les ouvriers qui travaillent sur la Tour Eiffel, donc on ne peut pas les augmenter. Mais ils se mettent en grève, à nouveau, puisque ce n'est pas la première fois cette année, en décembre 88, au deuxième étage de la Tour, surtout les charpentiers italiens, qui sont les migrants, on peut dire, de l'époque, un petit peu ce que les Français détestaient à ce moment-là, parce qu'ils volaient leur travail, évidemment.
Ça n'a pas énormément changé, pour dire la...
L'histoire se répète, hein, oui. Mais il y a plein d'anachronismes et de choses qui sont justement pas anachroniques, mais qui semblent anachroniques dans le spectacle, parce que tellement elles sont modernes, ça fait écho, beaucoup de choses font écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on est en décembre 88 et on doit les remettre au travail. Donc pendant 1 heure, je parle, pareil, un petit peu comme à Akhenaton, mais cette fois c'est au 19e siècle, avec le public pour faire le point sur comment remettre au travail ces gens et pourquoi la France entière déteste Gustave Eiffel à ce moment-là.
Puis c'est des Italiens, donc c'est des travailleurs immigrés en fait.
Oui, mais complètement. On est allé les chercher parce qu'il fallait quand même monter là-haut, il fallait pas avoir le vertige, ouais. Fallait être un alpiniste.
Puis on n'avait pas d'Indiens, nous, comme aux États-Unis.
Ben voilà.
On découvre quand même un personnage extraordinaire. Il a remis la France sur les rails, si je peux me permettre.
Il a ramené sa grandeur. Et puis, il y avait une guerre, la révolution industrielle. Hein, c'est ça qu'on raconte en vrai dans ce spectacle. Mais il y avait une guerre, technologique, on va dire, entre l'Angleterre et la France. Et l'Angleterre venait de gagner la guerre avec le rail. Et donc il fallait qu'on gagne autrement. Et donc il y avait ce petit concours, cette guerre même, sur comment monter un monument de plus de 300 mètres.
D'accord.
Et ça c'était infaisable.
De l'époque, quoi.
C'était le challenge de l'époque. D'accord. Et puis l'Espagne avait essayé l'année d'avant, ça marchait pas, etc. Bon, voilà. Et la France a réussi grâce à ce Gustave Eiffel, qui n'est pas français. Hein. Gustave Eiffel, c'est un Allemand.
Ah zut.
Donc on sort de la guerre avec l'Allemagne à ce moment-là, donc autant dire que les Français détestent Gustave Eiffel.
D'accord, mais c'est la guerre en 1800 et quelques.
La guerre de la Prusse, ouais, voilà. 1871.
Merci.
Voilà, 71, la Commune de Paris.
Voilà, ok. Un biopic lumineux, un voyage passionnant dans le Paris du 19e siècle, et vous avez reçu le prix du meilleur auteur lors de la création au Festival d'Avignon.
Oui, en 2018.
Pour ce
Gustave Eiffel. Oui, c'était super. Ça a tout changé parce que les programmateurs sont arrivés en masse. Voilà. Et puis, il faut souligner que cette année 2023, c'est le centenaire de sa mort. Ah. Donc, il y a plein d'événements en France autour de ce personnage qui a créé des milliers de monuments dans le monde entier. Mmh. Des moulins en Égypte, une église au Chili.
Des immeubles, je crois, aussi.
Partout, ouais, partout.
Ouais. Avec toujours cette patte, hein, du métal.
Le métal, ouais. Parfois le ciment. les pieds souvent des ponts Eiffel, souvent les ponts Eiffel c'est pas toujours le métal, parfois c'est juste les pieds en ciment, donc d'accord. Voyez, rien à voir.
La tour Eiffel, elle est aussi logée sur des blocs de ciment, je crois.
Ah oui, oui, oui.
De toute façon.
Il
hein.
y a eu un problème, puisque c'était un marécage à ce moment-là. Donc les piliers nord de la tour s'enfonçaient là.
Ah, puis il y avait l'image de la France, c'était l'exposition universelle, fallait pas se planter quand même. Hein.
Fallait pas se planter.
Je crois que c'était ric-rac, hein. Ça a été.
Oui, 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 oui. Mais ça a vraiment participé. Celle de 1889, dont on parle là, et celle de 1900. Dont il reste le petit palais, le grand palais, le pont Alexandre III, les escalators, enfin, des tas de choses en 1900 aussi.
Vous êtes passionné d'histoire, je crois.
Ah bah oui, j'adore. Oui. J'ai écrit aussi
puis c'est contagieux, vous le transmettez bien, on a envie d'écouter.
Mais c'est formidable, ouais. Ça raconte tellement de choses. Mais le 19e siècle, c'est vraiment un siècle d'invention. On vit encore dans ce qui a été inventé au 19e siècle. L'électricité, l'aspirine, la couveuse, enfin ce qu'on veut, des choses extraordinaires.
Bah écoutez, il n'était pas portable le téléphone. Mais aujourd'hui encore, la Tour Eiffel, elle sert justement d'antenne relais.
Et exactement, on a eu chaud, hein, parce qu'elle a.
C'était l'ORTF au départ et tout ça, quoi.
C'est cette invention qui a permis de décrypter des messages pendant la Première Guerre mondiale et qui l'a sauvée, parce qu'elle devait être rasée, cette tour.
C'est vrai qu'elle devait disparaître.
Ah oui, oui.
C'est devenu l'emblème de la France.
Donc heureusement, voilà. Et je voulais juste dire que ce spectacle, ce petit détail de grève de charpentiers là, raconte donc la grande histoire de la Révolution française, industrielle, de la Révolution industrielle, pardon, mais aussi montre un moment précis où Gustave Eiffel est lui-même aussi en plein doute. Et d'ailleurs, il va vendre son entreprise à la fin de ce spectacle.
D'accord.
C'est-à-dire, il est en plein traumatisme parce qu'il est dans le scandale du Panama. Et c'est un énorme scandale politique. Hein. C'est le gros scandale du 19e siècle. On parle de l'affaire Dreyfus, mais le scandale du Panama, je pense que c'est bien pire que ça. C'est des milliers de suicides. Il a été accusé de ses morts, hein, d'ailleurs. Donc c'est aussi un moment de doute. Moi, j'aime bien ces moments-là. Où...
On est encore à un moment charnière.
Oui. C'est ça.
Ouais. Alors, Gustave Eiffel, Enfer, le jeu de mots quand même, Enfer et contre tous. C'est à 16h, à la Tache d'Encre, avec une relâche le mardi. Akhenaton, la dernière heure d'un pharaon, c'est aussi à la Tache d'Encre, c'est à 12h15, et c'est toujours avec Alexandre de Limoges, qui était avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre.
Merci beaucoup.